VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, le candidat à la présidence, Moïse Katumbi, condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière.
La Grande-Bretagne tient aujourd'hui son référendum pour décider de rester ou quitter l'Union européenne.
Ici à Washington, sit-in spectaculaire des parlementaires démocrates pour exiger un vote sur les armes à feu après le dernier massacre survenu il y a 12 jours à Orlando, en Floride.
Et sur le plan politique, échange de propos peu amène entre les candidats républicains et démocrates à la présidence, Donald Trump et Hillary Clinton. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. La condamnation a été prononcée à Lubumbashi au terme d'un procès différent de celui où l'opposant est accusé de mercenariat. Le point avec Eddie Isango.
Les tribunaux de Lubumbashi condamnent les milliardaires opposants à 36 mois de prison ferme pour faux et usage de faux dans la vente d'un immeuble. Ses avocats contactés par VOA Afrique ont refusé de commenter, disant n'avoir pas été officiellement notifiés. Pour sa part, le président du tribunal de Kamalondo, Lubumbashi, précise que M. Katumbi devra aussi verser 1 million de dollars de dommages et intérêts au plaignant, un ressortissant grec. Un de deux juges a refusé d'apposer sa signature à l'acte de condamnation qui doit être signé par 3 juges. Maître Mumba Gama, avocat de l'opposant, a affirmé que ces juges avaient finalement signé sous pression.
En République centrafricaine, les effectifs de militaires français sont ramenés à 350 soldats, ce qui marque la fin de l'opération Sangaris. Idriss Fall.
L'état-major français a annoncé dans un tweet que désormais Sangaris constitue une force de réserve tactique de 350 soldats au profit des 12 500 casques bleus. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, avait déjà annoncé la fin de l'opération dans le courant 2016. La France avait mobilisé près de 2 500 soldats en décembre 2013 au plus fort des violences intercommunautaires en RCA. Les milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes, et les ex-rebelles musulmans de la Séléka avaient mis le pays à feu et à sang. L'intervention française et le déploiement des casques bleus de la MINUSCA ont permis de faire retomber les violences. Sangaris a été ramené à 900 hommes peu avant l'élection de Faustin Archange Touadéra en février, qui était censé marquer la fin de la transition. Cependant, la réputation de l'armée française a été entachée par des accusations d'abus sexuels et de sévices physiques en Centrafrique.
Au Burundi, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sont arrivés ce mercredi à Bujumbura pour une visite de travail de 2 jours. Nous écoutons l'ambassadeur Lazare Makayat Safouès.
Nous sommes 15 représentants des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Comme vous le savez, c'est un organe en charge de la gestion des conflits qui se passent sur le territoire des États membres. Prévention des conflits, gestion des conflits, résolution des conflits. En fait, nous sommes là pour apporter un message d'espoir et de solidarité à nos frères du Burundi et essayer d'accompagner tous les efforts qui ont été entrepris jusqu'ici et de nous-mêmes faire notre propre évaluation de la situation et voir dans quelle mesure, conformément à d'autres membres, nous pouvons accompagner les efforts qui sont faits jusqu'ici pour que le Burundi trouve une paix durable. Bien entendu, c'est un honneur pour nous de rencontrer le chef de l'État. Nous allons rencontrer également le ministre des Affaires étrangères qui est un ancien collègue, donc c'est avec un grand plaisir que nous allons le rencontrer. Évidemment, nous allons rencontrer le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, sans oublier la société civile et bien entendu les confessions religieuses également. En fait, nous sommes venus pour rencontrer, pour écouter tout le monde et voir dans quelle mesure nous aussi, conformément à notre mandat, nous pouvons apporter notre contribution à cette recherche collective d'une paix durable au Burundi.
L'ambassadeur Lazare Makaya Saufouès répondait aux questions des journalistes à l'aéroport de Bujumbura.
L'ONU va sanctionner les casques bleus fautifs dans l'attaque meurtrière d'un camp des Nations Unies à Malakal, au Soudan du Sud, en février. Le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a reconnu qu'une enquête avait constaté des lacunes dans la réponse des soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Il a refusé de les dénoncer ou de donner leur nationalité, mais a affirmé qu'il y aurait des rapatriements d'unités et de certains officiers.
Au Cameroun, une réforme très controversée du code pénal a été adoptée mercredi par l'Assemblée nationale, a appris l'AFP de sources parlementaires. Le principal parti d'opposition a boycotté le vote, le maintien de la peine de mort, l'homosexualité toujours passible de 5 ans de prison, l'immunité concédée au ministre, la pénalisation de l'adultère. Ces dispositions ont braqué l'opposition et la société civile qui déplore une réforme préparée sans concertation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Grande-Bretagne tient aujourd'hui un référendum pour décider de rester ou quitter l'Union européenne. Plusieurs dirigeants européens ont lancé d'ultimes mises en garde contre un Brexit dont l'onde de choc serait ressentie partout. Des détails avec Morgane Guiriec.
Les 46,5 millions d'électeurs britanniques vont faire un choix de dimension historique aujourd'hui. Pour le Premier ministre David Cameron, qui joue son avenir politique, une fois que vous avez sauté de l'avion, il est impossible de remonter à bord. À Londres, Paris, Beyrouth, Nairobi et New York, des hommages ont marqué hier ce qui devait être le 42e anniversaire de Jo Cox, la députée pro-européenne qui a été assassinée jeudi. En Écosse, le parti au pouvoir a répété qu'un Brexit entraînerait inévitablement un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. De son côté, l'Irlande du Nord craint de voir ressurgir les vieux démons du passé, se demandant s'il faudrait rétablir une frontière avec le voisin du Sud. Pour Boris Johnson, ancien maire de Londres et leader du camp du Brexit, tous ces cris d'alarme sont destinés à faire peur. Il a dit attendre avec impatience de pouvoir décréter aujourd'hui un Independence Day britannique.
Si le Brexit l'emporte, quel sera l'effet sur l'Europe? Idriss Fall a joint Henry Ridgewell, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bruxelles.
On ne sait pas. Si la Grande-Bretagne quitte l'UE, il va créer une longue période d'instabilité en Europe. Il pourrait prendre plusieurs années pour Grande-Bretagne à négocier sa sortie. Ici, à Bruxelles, il y a beaucoup de peur que le référendum britannique pourrait être contagieux, que d'autres pays européens exigeront leur propre référendum. Cependant, il y a certains législateurs ici qui pensent qu'une sortie britannique serait plus facile pour l'Europe de parvenir à une meilleure union.
Ici à Washington, des parlementaires démocrates ont organisé mercredi un inhabituel sit-in au Congrès américain. Ils protestent ainsi contre le refus de la majorité républicaine de voter des restrictions sur les armes à feu. 10 jours après la sanglante attaque d'Orlando, le président Barack Obama leur a apporté son appui. « Nous devons occuper l'hémicycle de la Chambre jusqu'à ce qu'on puisse agir », a déclaré le député John Lewis, figure historique du mouvement des droits civiques dans les années 1960.
Toujours aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump a lancé une attaque virulente contre la démocrate Hillary Clinton, la qualifiant de peut-être la personne la plus corrompue à jamais briguer la présidence des États-Unis. Dans sa riposte, Mme Clinton a qualifié ses propos de mensonges extravagants.
Et puis les États-Unis doivent continuer de renforcer leur dispositif de défense contre les missiles pour protéger leurs intérêts et leurs alliés en Asie. C'est ce qu'a déclaré mercredi le chef du Pentagone, Ashton Carter, après un double essai balistique mené par Pyongyang.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Drissa.
Aléa Yakta Est, ça y est, les jeux sont faits. Le premier tour s'est achevé hier soir.
Et des surprises avec l'élimination de la Suède pour le dernier match international de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot jaune. La Suède encore battue 1-0 par la Belgique. Le compte-rendu de ce match avec Jean-Roger Billon.
Dès la cinquième minute, Berg mettait Courtois. Contribution sur un coup de pied arrêté, puis ce fut au tour d'Eden Hazard de tenter d'enflammer le côté gauche avant de servir De Bruyne qui ne cadrait pas. Ibrahimovic, quant à lui, se mettait au diapason avec de l'intensité et du mouvement. Sa frappe aux 20 mètres passait de peu à côté à la 26e minute. Lukaku était trop court sur une dernière action et la mi-temps intervenait sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, Zlatan Ibrahimovic se voit refuser injustement un but sur hors-jeu. Finalement, N'Golan plaçait une grosse frappe des 25 mètres pour tuer les espoirs suédois et marquer le seul but du match. Bye bye la Suède. Quant aux Diables Rouges de Belgique, ils défieront la Hongrie lors des huitièmes de finale dimanche à Toulouse.
On reste dans ce groupe E pour parler de l'étonnante équipe d'Irlande.
Face à une équipe d'Italie déjà qualifiée, les Verts irlandais se sont imposés 1-0, un succès qui leur permet de se qualifier pour les huitièmes de finale au titre du meilleur troisième. Au prochain tour, la République d'Irlande affrontera le pays organisateur, la France, en huitièmes de finale.
Dans le groupe F, le Portugal se qualifie dans la douleur.
Et encore un match nul, 3 partout contre la Hongrie qui termine à la première place du groupe. Les Portugais ont frôlé l'élimination car dans le même temps, l'Islande s'est imposée 2-1 contre l'Autriche. La bande à Cristiano Ronaldo a beaucoup souffert, comme nous l'explique Bagassikoura.
Oui, le Portugal sauve sa tête grâce à un doublé de sa vedette Cristiano Ronaldo. Dans un match fou où le Portugal a été mené par 3 fois, la Hongrie a fait douter le Portugal jusqu'au bout. Grâce à son doublé, Ronaldo qualifie son pays et bat de nouveaux records. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 4 euros différents en inscrivant un doublé. Cristiano Ronaldo porte ainsi à 8 buts son total en phase finale, désormais à une longueur du record de Platini. Les Portugais, jamais éliminés en phase de poule en 6 participations au tournoi final, se classent 3e du groupe F et rencontreront la Croatie au prochain tour samedi à Lens.
On connaît donc l'affiche des huitièmes de finale, Nicolas.
Oui, la Suisse affrontera la Pologne, Croatie-Portugal, Pays de Galles, Irlande du Nord, la Hongrie, on l'a dit, face à la Belgique, l'Allemagne contre la Slovaquie, Italie-Espagne, le choc de ces huitièmes de finale. À noter également France-Irlande et Angleterre-Islande, des oppositions prometteuses qui ont inspiré le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. La défaite surprise de l'Espagne contre la Croatie précipite le début des grands chocs dans les matchs couperets à élimination directe qu'on n'attendait pas avant les demi-finales ou tout au moins les quarts de finale. L'Italie-Espagne qui va opposer lundi à Saint-Denis, deux mastodontes du football européen, est tout simplement la revanche de la dernière finale qui avait vu la Roja surclasser la Squadra Azzurra par le score indiscutable de 4-0 après une première mi-temps flamboyante. Il y a peu de chances que le scénario de 2012 se répète. Tout d'abord, l'Espagne était au sommet de sa domination mondiale, avec une génération dorée au milieu de sa forme, là où l'Italie, qui avait laissé au placard ses surprenants vétérans champions du monde de 2006, était en pleine reconstruction. Le pronostic était facile, il fut respecté. Actuellement, pour ce huitième de finale aux allures de finale avant la lettre, les forces sont équilibrées. Si l'Espagne peut s'enorgueillir de rassembler des joueurs provenant tous de ses formations nationales qui dominent les compétitions de clubs en Europe ces dernières années, l'Italie, elle, a choisi l'ossature de la Juventus de Turin, la seule équipe en plus du Bayern Munich à faire jeu égal avec ses formations espagnoles. La qualité des acteurs et des collectifs nous promet donc un match spectaculaire, relevé et indécis, au terme duquel le vainqueur endossera le costume de super favori. En attendant, prenons notre mal en patience. À demain.
Voilà pour ce journal de l'Euro. Merci Nicolas Pineau. On termine par la deuxième demi-finale de la Copa América. Le Chili a battu la Colombie 2-0. Il affrontera dimanche en finale l'Argentine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison pour spoliation immobilière. Les avocats de l'opposant, déjà inculpé pour recrutement des mercenaires, ont interjeté appel dénonçant un jugement sans procès. Le G7, groupe de 7 anciens partis de la majorité qui ont rejoint l'opposition, dénonce pour sa part un harcèlement visant à éliminer un candidat déjà déclaré pour la présidentielle. Eddie Sango a joint à Lubumbashi Gabriel Kiyungu wa Kumwaza.
Nous avons fait ordre de notre gouvernement et nos dirigeants qui ont tout simplement perdu le bon sens parce que la maison en question n'appartient pas à M. Katumbi, mais appartient par contre au grand frère de M. Katumbi. Et donc, M. Katumbi n'est concerné en rien. Il est tout simplement harcelé par le pouvoir en place du fait qu'il a postulé au poste de président de la République pour les prochaines élections. Tout maintenant est mis en place pour empêcher M. Katumbi de rentrer au pays et de briguer le mandat du président de la République. C'est un faux procès.
Il y a un plaignant ressortissant grec qui accuse M. Moïse Katumbi.
La résidence est le fils de la défunte femme. L'État congolais avait pris cette maison et avait vendu la maison à M. Katebe Katoto, qui est le grand frère de M. Katumbi. Et M. Katebe Katoto détient le certificat d'enregistrement régulièrement émis par l'État congolais. Donc, s'il y a à se plaindre, ce monsieur devrait aller en justice contre M. Katebe Katoto, qui n'est pas Katumbi Tiapo. Katebe Katoto, c'est le grand frère de Katumbi Tiapo.
Est-ce que les avocats de M. Katumbi vont aller en appel?
Naturellement. D'abord, avant le procès du jugement, le collectif des avocats de M. Katumbi ont protesté et ont récusé le juge qui a prononcé cette sentence sans procès. Maintenant, ils ont décidé d'aller en appel parce que ce n'est pas un jugement régulier, c'est tout simplement une histoire politique.
C'était Gabriel Kiyungu wa Kumwanza, l'un des dirigeants du G7, joint à Lubumbashi.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Centrafrique, l'opération Sangaris arrive à son terme avec la réduction de ses effectifs à 350 soldats. Elle avait été lancée, l'opération, pour ramener la paix dans le pays au lendemain des hostilités intercommunautaires. Un bilan mitigé en raison des scandales d'abus sexuels et de sévices physiques perpétrés par quelques éléments du contingent français, comme l'explique Jean-Fernand Koena du journal Le Confident, joint par Félix Yepassis Zembro.
Le bilan de l'opération Sangaris est un peu mitigé et disproportionné. La force française Sangaris est intervenue en RCA dans une période aussi difficile. Le 5 décembre, vous pouvez constater la liesse populaire qui avait accompagné l'entrée des forces françaises à Bangui. D'espoir, vraiment pour la population désabusée et désespérée des forces négatives qui sévissaient à l'époque. Aussitôt après l'entrée en jeu de ces forces françaises, avec la perte de deux de l'air, aussitôt la situation s'est transformée et le désarmement tant attendu n'a pas vraiment atteint le standard parfait en ce qui concerne le désarmement simultané des deux forces négatives, à savoir les Seneca et les Antibalaka.
Orbi, le désarmement, peut-on parler aussi du volet abus sexuel dont il a été beaucoup question ces derniers temps?
Dérapages qui sont les corollaires de leur mission. sur le plan sécuritaire et sur le plan désarmement qui a été le socle même de leur mandat, ils n'ont pas rempli ce devoir-là. Et aujourd'hui, la RCA se trouve dans une situation de ni paix ni guerre, mais la RCA se trouve sur un volcan. Les forces françaises se sont adonnées à cœur joie à des violences sexuelles. Malheureusement, le droit international n'a pas laissé la chance de voir ceux qui sont encore présumés coupables être jugés, ce que tout le Centrafricain aujourd'hui déplore et regrette.
La fin de ce mandat, selon vous, est un soulagement pour la population centrafricaine?
Ça ne doit pas être pour le peuple centrafricain un objet de soulagement. Dès le départ de cette mission, le général Soriano, avec le général Félix Akaga à l'époque, avait mis les forces armées centrafricaines sous ce qu'ils appellent les mesures de confiance. Donc, jusqu'aujourd'hui, avec l'embargo qui pèse encore sur cette armée, il n'est pas évident pour ces forces de se retirer parce que c'est la Sangaris qui vient en appui avec la MINUSCA. La capacité opérationnelle de la MINUSCA aujourd'hui n'est pas de nature à répondre aux besoins sécuritaires. Il serait mieux de rendre d'abord l'armée nationale opérationnelle avant de se retirer.
C'était Jean-Fernand Cohen du journal Le Confident.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Sénégal, beaucoup de bruit autour de la libération éventuelle de Karim Wade. Certains Sénégalais estiment que le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ne devrait pas bénéficier d'une grâce présidentielle vu le délit d'enrichissement illicite qu'on lui reproche. En revanche, d'autres estiment qu'il a des droits en tant que citoyen. Sorna Natambay vous propose ce micro-trottoir réalisé dans la capitale sénégalaise.
Macky Sall, il n'a aucun argument. Ses avocats, ses juges, ses procureurs, ils n'ont même pas le droit d'inculper Karim Wade. C'est un deal.
Pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas le droit d'inculper Karim Wade?
Parce qu'il n'y a pas de preuve encore. Il n'y a pas de preuve. C'est uniquement Karim Wade qui est en prison. Donc il n'y a pas de preuve.
Croyez en la justice sénégalaise?
Non, je ne crois pas à la justice sénégalaise. Mais je crois à certains juges parce qu'ils osent dire la vérité. Pour moi, on parle comme ça avec. C'est rien du tout. Ce sont que des bavures.
Papa, c'est bon, Pam. Avant, il y a eu des
Abdoulaye Wade lui-même a demandé que les membres de son régime rendent compte. Mais les Sénégalais aujourd'hui exigent la libération de Karim Wade alors qu'ils se plaignent des coupures d'électricité et des détournements de fonds. Karim Wade n'est pas plus important que le prisonnier qui a volé un poulet ou celui qui a fait un petit délit.
Karim,
moi, je dis toujours que ce sont les politiciens qui nous créent des problèmes tout le temps. Quoi. On nous a fait perdre beaucoup d'argent sur le problème de Karim Wade, le problème de créer des enregistrements illicites. Et un beau jour, on dit qu'on va libérer Karim Wade après qu'il soit condamné. Je ne sais pas de quelle manière va-t-il être libéré. Grâce. Grâce, ça veut dire qu'il est coupable. Quelqu'un qui est coupable. Il y a d'autres personnes qui sont coupables, comme disait le jeune rappeur là, M. Foumalat. Alors, il y a deux justices. Il y a les badolins qui sont justiciables et les riches ne sont pas justiciables.
Bah, on fait beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire, c'est plutôt poésie, quoi. Moi, d'après ce que je pense, il y a des preuves qui ont été établies. D'après ce qu'on a dit, il a rendu beaucoup de biens à HS, des immeubles qui ont été saisis à son nom. Donc, il y a des preuves, elles sont là. Le problème, c'est que c'est le fils d'un tel. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, la grâce, c'est une prérogative du président. Vu qu'il a purgé la moitié de sa peine, comme tout Sénégalais, il y a le droit. Mais pour autant, on ne devrait pas arrêter la poursuite des biens mal
acquis. Karim Wade a tellement fait pour le pays, donc le président Sall doit le libérer. Et Inch'Allah, il sera le prochain président.
Propos recueillis à Dakar par notre correspondante Sorna Natambay.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Le Cameroun a commencé la suspension des numéros de téléphone non identifiés une semaine avant le délai réglementaire accordé par l'État. Cette décision a été prise pour lutter contre la fraude et l'usage des numéros non identifiés par le groupe terroriste Boko Haram dans la coordination de ses activités. À Yaoundé, notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Des milliers de Camerounais et des étrangers se dirigent vers le point d'identification pour faire enregistrer leur numéro de téléphone mobile. Parmi les documents exigés, une carte nationale d'identité, des passeports pour les étrangers et des photos 4x4. L'on compte parmi les gens présents ces jours au poste d'identification Annette Ngassa. Elle se plaint de la longue procédure.
Les files sont tellement longues que c'est impossible de s'identifier. Je crois que le service est mal organisé. Il faudrait peut-être qu'on change de politique. On ne peut pas s'exposer au soleil pendant 3 heures pour pouvoir s'identifier.
Tiodon Tangou se dit déjà fatigué de la longue attente et promet de repasser une autre fois.
C'est juste un problème de temps. Mais quand même, j'ai reçu des messages plusieurs fois. On nous interpelle à aller nous identifier et en nous proposant même le crédit. Jusqu'à 10 000 francs. Je le ferai le moment venu.
Mais il ne reste que jusqu'au 30 juin pour se faire identifier. Selon Kamga Hiller, le responsable du ministère camerounais de Postes et Télécommunications, les appels avec certains numéros suspects ont déjà été suspendus.
Des mesures ont été prises progressivement parce que dès le 10 juin, certains numéros ont déjà fait l'objet de suspension. Il s'agissait notamment des numéros pour lesquels on n'avait pas de données du tout, donc pas d'identité, pas de personne à qui ce numéro appartient. Mais je dis le délai, il est unique, c'est le délai du 30 juin. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est-à-dire dès le 1er juillet, ceux qui ne se seront pas présentés pour cette mise à jour, pour une identification, se verront suspendus.
Les autorités camerounaises disent avoir pris cette décision pour lutter contre la fraude, la NAC et l'usage des numéros de téléphone non identifiés pour les actes de corruption. Madame Asako Thérèse est responsable d'une entreprise de la téléphonie mobile.
La plus grosse faille, c'est que pendant longtemps, les opérateurs ont vendu ce qu'ils appellent des SIM préactivées dans la rue. Et ça n'a pas facilité effectivement l'identification de l'usager. Nous, on travaille beaucoup avec les services de sécurité, notamment Interpol. Et quand on trace les appels qui ont servi lors des crimes ou des délits, on se rend compte que la majorité ont été faits effectivement à partir des callbox qui ne permettent pas ou alors qui n'exigent pas l'identification du client.
Plus de 35 millions de numéros de téléphone mobile sont en usage au Cameroun. L'État annonce que les membres du groupe terroriste Boko Haram utilisent les numéros non identifiés pour coordonner leurs activités et propager leurs messages au Nord Cameroun. En mars dernier, le président nigérian avait imposé une amende de plusieurs millions de dollars aux entreprises sud-africaines MTN installées au Nigeria pour avoir laissé faire usage de leur réseau par le groupe terroriste Boko Haram. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Après leur implantation au Maroc, les supermarchés Leader Price arrivent au Sénégal. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le groupe Casino, la maison mère, a créé la filiale LP Sénégal qui va piloter l'ouverture des nouveaux magasins. Le premier Leader Price sénégalais devrait ouvrir à Dakar en septembre prochain. Le groupe Casino est déjà implanté dans plusieurs pays africains via l'enseigne de restauration collective Ensemble, dont il détient la franchise. L'Éthiopie est sur le point d'atteindre un record d'exportation annuelle de son café, selon un communiqué publié hier par le ministère du Commerce éthiopien. Le pays a exporté plus de 174 000 tonnes de café au cours des 11 derniers mois, générant plus de 120 millions de dollars. L'Allemagne, l'Arabie Saoudite et les États-Unis sont les principales destinations d'exportation du café éthiopien. Une fois n'est pas coutume, le FMI a remonté les bretelles des États-Unis. Dans un rapport publié hier, le Fonds monétaire international presse Washington de lutter de façon urgente contre la pauvreté et l'inégalité qui pèsent sur l'avenir du bien-être économique du pays. Le rapport souligne notamment que la part des revenus fournis par le travail s'est réduite de 5% depuis 15 ans et que la taille de la classe moyenne n'a jamais été aussi faible en 30 ans. Il y a nécessité urgente à s'attaquer à la pauvreté, enchaîne l'institution, soulignant qu'un Américain sur 7 vit dans la pauvreté et que 40% d'entre eux travaillent.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.